Alors, donc, je m'appelle François Albazini, je suis médecin urgentiste. Je travaille à l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie. Et je vais vous parler, je vais vous faire un retour d'expérience sur une avalanche multivictime qu'on a eue cet hiver. Alors, là où je travaille, c'est une petite ville qui est située à 100 km de Grenoble, 70 km de Chambéry, pas très loin de l'Italie. Donc Saint-Jean-de-Maurienne. Je suis responsable d'une équipe d'une dizaine de médecins urgentistes, tous médecins du secours en montagne. Et pour nous, l'activité de secours en montagne, on l'a fait avec les partenaires de la gendarmerie, de la police nationale, sur la base hélicoptère de Modane, qui est située à peu près à 30 km de l'hôpital, non loin du tunnel du Fréjus. Alors la médecine de catastrophe, c'est quelque chose auquel on s'est intéressé, on a commencé à s'y intéresser en 2012, quand on s'est rendu compte que ce qu'on savait déjà, à savoir qu'on était mauvais, pas préparé, qu'on n'avait aucun équipement spécifique. Alors, petit à petit, on a conçu des outils. La première étape, ça a été de concevoir des fiches médicales de l'avant, prénumérotées, qui permettent d'effectuer un triage. Donc on en a conçu une qui a intégré justement les algorithmes spécifiques qu'on peut rencontrer en montagne, notamment en cas d'avalanche, et on a intégré la checklist de la Medcom de la CISA. Le corollaire de la fiche médicale de l'avance c'est aussi d'être capable de synthétiser toutes ces données qu'on va collecter depuis le terrain par les secouristes. Donc on a créé aussi un registre qui permet de rassembler toutes ces données, de séparer les patients d'urgence vitale, les patients décédés, et ainsi de suite, et qui permettent de donner, au commandement de donner des ordres et des instructions au secteur. L'étape suivante, ça a été de constituer des lots projetables. En l'occurrence, ça c'est un sac qu'on a à disposition dans le poste de secours. Ça c'est la salle de prise d'alerte de la base de Modane. En haut, vous voyez, c'est notre sac dans lequel il y a 90 fiches prêtes à être projetées sur le terrain. Mais au cas où on n'ait pas le temps de... Le secours ne part pas de la base, si des fois c'est en retour de mission ou en étant détourné que l'hélicoptère va être projeté sur un secours multivictime, on a prévu de pouvoir démarrer la gestion du secours en ayant déposé une dizaine de fiches et des registres. La suite logique de cette phase de préparation, c'est de régulièrement d'avoir organisé des exercices de secours où on testait des choses, où on a validé justement cette fiche médicale de l'avant. Le 24 décembre 2015, j'étais assez fier de moi parce que on a pu donc armer ce sac dans la base, les fiches dans l'hélicoptère. J'envoie un message à toute mon équipe. Voilà, ça y est les gars, on est prêts. Maintenant, s'il y a une catastrophe, vous avez de quoi trier, vous avez de quoi faire des registres et tout est prêt. Alors, ça tombe bien, parce que en date du lundi 18 janvier 2016, vers 13h, dans le carré des urgences, la salle commune qu'on a à l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne, sur ce poste radio qui est allumé en permanence, on intercepte un message d'alerte. On comprend qu'il s'agit d'une avalanche, que ça concerne des militaires, qui sont a priori plusieurs, voire nombreux, qu'il y a du monde sous la neige, et que ça semblerait se passer du côté de Valfréjus. Valfréjus, c'est une station de ski qui est à quelques minutes de vol à peine de la base de Modane. On entend aussi dans le message, dans les conversations, que l'hélicoptère de Modane a immédiatement décollé avec le médecin à bord et les équipes de secouristes. Alors, on se dit, moi je me dis, que bon, ça risque d'être compliqué. Mais bon, pendant ce temps, sur place, déjà, ça commence. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de décisions, des mesures immédiates qui sont prises par le chef des opérations de secours, qui lui va rester à la base pour piloter le dispositif, Comme on est à proximité dans une station de ski, ben, le responsable du service des pistes va lui aussi engager des moyens, prendre des décisions. Le premier pilote, donc notre pilote, va lui aussi servir de... va gérer l'aspect aéronautique, parce que d'autres machines vont être engagées, donc il va falloir les coordonner. Et puis le premier médecin du secours en montagne, qui est sur place, lui aussi, il va prendre des décisions qui seront importantes. Alors, ces décisions, elles sont de quelle nature? Premièrement, engager des renforts, et des renforts spécialisés. C'est-à-dire qu'ils ont tout de suite appelé la base de Modane, qui est arrivée avec un secours, avec un hélico de secours médicalisé, des sauveteurs, sans doute des chiens aussi, je ne sais plus. Courchevel, la base de l'hélico de Courchevel. Et deuxième décision, c'est de définir ce qu'on appelle en français un PRV, un point de regroupement des victimes, l'une par les pisteurs secouristes sur leur domaine skiable, en aval de l'endroit où il y a eu l'avalanche, dans un endroit sécurisé, et puis sur la base de l'hélicoptère aussi, qui va être décrété point de regroupement des victimes. Demander aussi le renfort du service des pompiers, parce qu'on va avoir besoin d'ambulances, et on travaille en inter-service, en inter-agency. Les premières mesures aussi qu'ils vont prendre, c'est d'emblée, vous le comprenez, essayer de récupérer des informations. Il faut absolument qu'on sache combien de militaires participaient à la sortie, et pour faire des recoupements, pour savoir à partir de quand on pourra décréter la levée de doute. Et puis, en ce qui concerne le médecin sur place, la première décision qu'il va prendre, vous en doutez bien, c'est de mettre en œuvre une stratégie de triage. Alors nous, à l'arrière, en tout cas moi, je peux dire que mon heure est venue. Ça fait 4 ans que je me prépare. J'ai déjà pensé à pas mal de choses. Et voilà, pour vous dire, j'avais fait 24 heures de garde la veille. Je traînais à l'hôpital, je devais rentrer chez moi, mais j'étais fatigué, je glandais. Donc c'est un petit peu un concours de circonstances qui a fait que je sois là. J'essaye de prendre aussi la posture d'un directeur des secours médicaux, en anglais medical commander. Et il y a 3 mesures que j'avais déjà anticipées à l'avance, si jamais ça devait m'arriver. C'est la première, c'est d'appeler tout de suite la directrice de l'hôpital, pour qu'elle aussi, elle puisse qu'elle ait un temps d'avance pour monter en puissance, appeler des renforts, faire de la place dans l'hôpital, rappeler les chirurgiens, ainsi de suite, et faire des choses que moi, j'aurais pas le temps de faire. Je préviens bien naturellement le centre de régulation médicale, le Medical Dispatch Center dont je dépends, qui se trouve à Chambéry. Et puis, quand même, j'essaye d'avoir un coup d'avance et j'ai mes contacts au CHU de Grenoble, donc qui est plus loin, mais qui constitue le Trauma Center de niveau 1 dont on peut présumer qu'il va être sollicité, notamment s'il y a des patients graves et notamment s'il y a besoin de faire de l'ECMO. Et je fais ça tout de suite parce que je me dis, si je le fais, si je pars sur le terrain, autant je n'aurai pas de réseau, je n'aurai pas de radio et ce ne sera pas possible de le faire. Donc jusque-là, voilà, moi aussi je suis encore en civil, mais on a pris quelques décisions avant d'être parti. Par contre, ces décisions... c'est ça qui me paraissait important de signaler. Moi, je l'ai su par la suite, mais chacun, il y a un effet domino, à savoir que les gens du Trauma Center vont à leur tour alerter les autorités sanitaires de la région. Ça s'appelle, chez nous en France, ça s'appelle l'Agence régionale de santé, c'est un organisme administratif, ça se situe à Lyon. Alors là, on commence à être à 200 km du lieu de l'accident. Et dont le travail, c'est de veiller à la bonne, au bon fonctionnement de l'offre de soins sur un territoire. Et d'être précocement informé, ça leur a permis éventuellement d'organiser la montée en puissance, prévenir les hôpitaux secondaires de repli et ainsi de suite. La décision aussi qu'ils ont prise à Grenoble, c'est d'interrompre toute l'activité de chirurgie cardiaque programmée pour mettre à disposition du personnel dans le but de préparer des stratégies d'extra-corporeal life support. Et en l'occurrence, il y a 7 postes d'ECMO avec le personnel adéquat qui ont été activés, prêts à recevoir des patients. Et bien entendu, ils ont fait de la place dans les réanimations pour avoir un temps d'avance quand il faudra trouver de l'aval. Ce qui est fondamental aussi, c'est que cette partie du fonctionnement de la chaîne santé, il a été défini toutes les 15 minutes d'établir une boucle de conversation pour actualiser les données que moi je faisais remonter du terrain et pour permettre une meilleure coordination et pas solliciter, que chacun sollicite, m'appelle en disant hey, on en est où, il y a combien de victimes. Dès que ça a été mis en place, ça a parfaitement fonctionné, moi j'ai plus été dérangé. Pendant ce temps, sur le terrain, les médecins, qu'est-ce qu'il a fallu faire? La première chose, il a fallu faire du triage. En l'occurrence, ce qui est important de savoir, c'est que le rôle des pilotes, ils ont fait deux décisions. Ils ont décidé de consacrer le fait que la machine dont c'est le secteur de travail soit la machine référente, le pilote référent. C'est lui qui a fait toutes les jonctions entre la base et le terrain. Et que les deux autres hélicoptères, après avoir déposé des renforts et des médecins sur le terrain, sont venus se mettre en repli sur la base, prêts à évacuer des patients vers les hôpitaux. Mais je vous parle de ça parce que les pilotes aussi, ils ont pris une initiative. C'est l'endroit où ils ont déposé les médecins. Et ça, c'est pas sans conséquence. Parce que, grosso modo, en survolant l'avalanche, ils ont vu, tiens, il y a des gens ici, ils sont en train de masser, je vais te poser là. J'entends masser la réanimation cardio-pulmonaire. Ce qui fait que les médecins sont tous les médecins qui ont été déposés, ont été déposés directement sur des victimes qui étaient en état de mort apparente. Il y a eu une partie de l'avalanche où il y avait des gens qui étaient vivants, il y avait des signes de vie. Cela, il a été décidé de les extraire, de les mettre au point de regroupement des victimes. Ils ont été considérés comme des blessés légers, entre guillemets. C'est pas sans conséquence, vous le verrez. Donc, pour les médecins qui se sont retrouvés sur le terrain, ils ont pu, à grande échelle, mettre en œuvre l'algorithme de la checklist. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ça leur a permis de faire un triage qui s'est avéré pertinent. Alors, je ne vais pas faire tout le détail parce que avec l'enquête, tout ça, on ne sait pas exactement tout ce qui s'est passé. C'est extrêmement compliqué de refaire l'historique d'un tel accident, mais les grandes lignes. En fait, on avait 52 personnes impliquées. C'est-à-dire que c'était un groupe de militaires, ils étaient 52. Alors, pendant longtemps, pendant plusieurs dizaines de minutes, il y avait une ambiguïté, on ne savait pas si c'était 52 ou 53. Vous doutez bien que cette information, tant qu'on ne l'a pas, c'est très compliqué. D'autant plus que moi, j'étais sur la partie haute de l'avalanche, encore un petit peu au-dessus, il y avait une zone où il y a un chien qui marquait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On lève le dispositif, on y va, on n'y va pas, on met un médecin, on met des secouristes, même si on le prend le médecin, il ne sera pas disponible pour autre chose, il n'y a peut-être personne. Enfin bref, il y a beaucoup d'incertitudes qui étaient liées à cette imprécision. Mais le poste de secours a bien fait son travail, ils ont contacté les autorités militaires, et le temps que ça se fasse, on a quand même eu cette information. Donc on part sur 52 impliqués. Ce qu'on saura après, à la fin de l'histoire, en écoutant les témoignages des rescapés, c'est qu'en fait, il y avait, on va dire une vingtaine de personnes qui étaient impliquées. Et a priori, on peut estimer que sur ces 20 personnes, il y en a une quinzaine qui ont été dégagées par l'autosauvetage. Ça confirme ce qui vient d'être dit par Giacomo et Monica, c'est que l'autosauvetage, c'est ça qui sauve des vies. En pratique, il y avait donc trois chantiers dans l'accident. Le chantier du haut était accessible uniquement par l'hélico. Deux personnes qui ont été dégagées pour autosauvetage avec des signes de vie, embarquées sur la première rotation déposée au poste de regroupement des victimes. Trois personnes qui ont été dégagées sous plus de 3 mètres de neige, pas de signes de vie, déclarées décédées avec la checklist. Et dans le secteur en bas à droite, trois personnes dégagées. Et comme il y avait deux médecins, trois personnes dégagées, ils en ont déclaré une décédée avec la checklist, une deuxième avec la checklist. Mais finalement, ils sont retrouvés là. Bon, on n'a plus grand-chose à faire. On est sur notre petit bout de chantier, on n'est plus en dépassement de moyens. Et il y a une de ces victimes qui a été réanimée. Ils ont décidé de réanimer sur un critère extrêmement simple, celle qui était la moins bleue des deux. Et en l'occurrence, dès la ventilation l'activité cardiaque a repris. Par contre, on était, je crois, au-delà des 35 minutes, bien au-delà. Et sur la zone qui était en bas à gauche, trois personnes avec des signes de vie, une qui a été dégagée, mise dans l'hélicoptère, emmenée à l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne d'emblée, et deux autres qui ont été dégagées sur le point de recoupement des victimes. Parmi elles, une de ces pour lesquelles je pensais, moi, directeur des secours médicaux, ayant une vision globale des choses, je sais tout, je comprends tout, pour moi, c'était des patients qui étaient en état de des blessés légers. Ben, il y en a une qui a été retriée au PRV par un médecin qui est arrivé en renfort du PRV, donc un cinquième médecin. On s'est rendu compte qu'il était paraplégique, qu'il était hypotherme à 31 degrés, qu'il avait des troubles de conscience. Donc celui-là, il a fallu aussi le réanimer. Donc au final, nos hélicoptères ont transporté deux personnes au CHU de Grenoble, une qui était l'arrêt cardiaque récupéré sur asphyxie, qui est malheureusement décédée dans céphalopathie anoxique. Ça donnait lieu à un prélèvement d'organes. Et puis une autre qui était paraplégique, qui avait un hématome sous-dural, des contusions cérébrales, hypotherme, enfin bref, un blessé très sérieux. Les pompiers qui étaient en renfort du PRV ont pu transporter par la route 6 blessés légers à l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne, où nous on a reçu en tout 7 personnes. Alors, sauvé. On a quand même eu le soir, on était assez satisfaits de nous. On a quand même un sentiment de réussite par rapport à cette opération. Pourquoi ? Parce que ceux qui devaient mourir sont morts. On n'a pas perdu de. Il n'y a pas eu de décès évitable. Ça a été confirmé par les autopsies. Et je peux vous dire que le collègue qui était sur le chantier du haut, il a dégagé une victime, il a pris l'affiche, il a suivi l'affiche, il a déclaré décédé. Il en a sorti une deuxième, il a pris l'affiche, il a déclaré décédé. Il a sorti une troisième, il a pris l'affiche, il a suivi le truc, il a déclaré décédé. Et quand j'arrive, il me regarde dans les yeux, je pense que s'il avait son compte, entre guillemets, et heureusement qu'il y avait cette fiche, et heureusement qu'il y a eu les autopsies, parce que ça l'a profondément marqué. L'impact de l'affiche, c'est pas seulement pour prendre les bonnes décisions, mais c'est aussi pour protéger la survenue de conséquences psychologiques sur les sauveteurs. On est content de nous aussi parce que finalement, il y a une bonne adéquation entre les moyens et les ressources, ben justement parce que le triage a permis de ne pas solliciter trop les secours en se lançant, en faisant venir d'autres renforts, démarrant des réanimations, lançant des ECMO inutiles. On a travaillé en sécurité. Tous les secours, toutes les personnes qui ont été impliquées sur le chantier avaient tous un ARVA, voire un ARVA plus un DVA, pardon, plus un ABS. Tout le monde a été contrôlé. Ça a été fait correctement. Il n'y a pas eu de suraccident. Et l'affaire a été pliée, je dirais. Le secours a été assez rapide. Donc voilà, un sentiment plutôt de réussite. On n'aurait pas pu faire mieux. Alors, qu'est-ce qui a concouru à ce succès qu'on s'auto-attribue la première chose, c'est que tous les secours organisés, c'était des secours professionnels, et les mecs, ils ont tous été professionnels. Ils étaient motivés, ils étaient à 200%, tout le monde s'est bien entendu, tout le monde a fait ce qui est resté dans son domaine de compétences, mais a tout donné. Et ça compte. La deuxième chose, c'est que la phase de préparation, la planification à la médecine de catastrophe, qu'on fait depuis 4 ans, ça paye, notamment en termes de triage, et puis le concept de prendre des décisions, des mesures immédiates, paf, réflexe, tout de suite, appel des renforts, on projette les gens, et ainsi de suite. Ça a bien marché. Puis il y a un troisième facteur, qui s'appelle la chance, qui est quand même intervenu dans cette opération. Et ce facteur-là, on va creuser un tout petit peu. Pourquoi on a eu de la chance? Parce qu'il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore dit, c'est que on a contrevenu à une règle de médecine de catastrophe qui dit que le commandant des opérations de secours et le directeur des secours médicaux, donc le commandement des secours et le commandement médical doivent être réunis. Ils doivent se parler et s'ils ne peuvent pas se parler directement, ils doivent être en liaison permanente. Ça n'a pas été le cas. Lui, il était à un endroit, moi j'étais à un autre endroit et on s'est parlé au téléphone avant que je décolle de Saint-Jean. Par contre, on ne s'est plus jamais parlé. Depuis, on s'est revus, je vous rassure. Et donc là, on n'a pas respecté cette règle, mais ça n'a pas prêté à conséquence. Si ça n'a pas prêté à conséquence, c'est que finalement, on avait de la chance et que l'accident n'était pas si gros que ça. Le deuxième problème, c'est que, c'est une surprise pour personne, on a eu des problèmes de transmission, ne serait-ce que entre médecins. Et on avait certes un canal radio qui nous était dédié, mais sur les quatre médecins qui étaient sur l'avalanche, il y en a deux qui n'avaient pas le canal programmé sur son poste, et le troisième, sa batterie est tombée en panne, et du coup, ça tombe bien, il est à côté de moi, donc je pouvais lui parler. Et puis, au final, retenez quand même que tous les secouristes, tous les hélicos et tous les médecins se sont partagés un seul canal. Donc, en termes de communication, ça a été un petit peu chargé. Là, il y a des progrès à faire. Je vous ai parlé de mes super fiches, mon super sac, mon hélico. Je projette quand même 100 fiches sur le terrain. Il n'y a que, quand on arrive, nous, on a 11 patients à trier. Il n'y en a que 3 qui ont une fiche. Et pour moi, c'est un échec. On a compris pourquoi. En l'occurrence, c'est pas le tout d'avoir 100 fiches dans un sac quand le chantier est très vaste et qu'il y a une victime là-bas, une victime là-bas. Il faut que ces fiches on puisse les ventiler rapidement. Je pense que une des moyens de pouvoir faire ça, c'est que chaque secours garde sur lui en permanence, nuit et jour, une checklist avalanche pour une mono-victime et au moins une fiche médicale de l'avant, des fois qu'ils sont engagés sur un multivictime. Un point sur lequel aussi j'attire votre attention, c'est que, mais ça découle de tout ça, c'est qu'il y a à deux reprises, quand on a dû transmettre des bilans pour organiser l'évacuation et l'orientation de deux fois un patient, n'ayant pas de numéro, on parlait du patient qui est en arrêt cardiaque, et il y a eu une confusion, on n'était pas complètement sûr qu'on parlait du même, ou s'il y en avait deux. Et ça, on a rapidement levé le doute. Heureusement qu'on n'avait que deux patients comme ça. On en aurait eu 10, ça aurait été la catastrophe. Il aurait fallu, je pense, en urgence, redistribuer des fiches, et ça aurait été une perte de temps pour tout le monde. Dernier point, qui me turlupine, je vous ai dit, il y a quand même, parmi les deux patients qui ont été à Grenoble, il y en a un dont on savait qu'il allait mourir, et que on se doutait quand même que l'asphyxie avait été... allait être fatal à très court terme. Il est quand même parti en premier. Et que le deuxième, celui qui était intitulé blessé léger, sur lequel on a décidé de ne pas mettre de médecin parce qu'on voyait des gens massés, ben finalement, lui le plus grave, il a couru un risque et on aurait pu le perdre, ce patient. Il aurait pu mourir d'avoir été négligé. J'attire votre attention sur ce point. Dans d'autres circonstances, je crois qu'on est passé près de la catastrophe pour lui. Alors, on peut faire le point par point sur tous les critères, sur toutes les grandes règles de la médecine de catastrophe dont on vous a déjà parlé. La préparation, savoir reconnaître la crise, travailler en sécurité, tout ça. Bon, ben voilà, nous, on a fait notre petit inventaire. Il y a des points où on est très bon, il y a des points où on a amélioré. Et ça s'appelle le procédé de retour d'expérience. Maintenant, je vais vous donner des sentiments qui sont très personnels. Hein. La première chose, c'est que ce que j'ai remarqué dans mon fonctionnement psychique sur cette opération, c'est que j'ai pioché dans une boîte à outils intellectuelle des réflexes, des automatismes, mais je n'ai mis en œuvre que les automatismes que j'avais au préalable conçus. Et par exemple, j'étais incapable de prendre une initiative toute simple pour pouvoir communiquer entre médecins, c'est de dire, ben voilà, il y a un secouriste qui prête sa radio à un médecin, et puis on se met sur tel autre canal, des canaux, on en avait quand même plusieurs. Et c'était des choses qui sont, a posteriori, ça paraît évident, mais dans une situation de stress, c'est quasiment insurmontable de concevoir des choses en partant de zéro. La deuxième remarque, quelqu'un m'avait dit, c'est Blaise Agresti qui m'avait dit ça, qui avait vécu l'avalanche de Mont-Roc alors qu'il était en début de carrière dans le PG. Quand on a l'habitude de faire des secours parfois difficiles, On va dire que là, on prend l'avion à hélice. Sur un truc comme ça, quand on se retrouve propulsé, directeur des secours médicaux, on est à bord d'un avion de chasse et on se prend une accélération qui fait que pendant les premiers instants, quand on arrive sur le terrain, il y a trop de choses qui arrivent, il y a trop d'adrénaline et on ne peut pas travailler pendant quelques minutes. Bon, moi j'ai dit 15 minutes, mais ça peut être plus court, moins long, ou plus long. Mais faut intégrer ça que quand on arrive, on n'est pas encore opérationnel. La troisième chose sur les facteurs humains, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est que en voyant mon collègue qui faisait du triage, on a besoin de toutes nos ressources. Mais il y a des tâches qu'on doit faire en étant hyper concentré. Comme on dit, on est dans un tunnel sur une tâche. Quand on est comme ça, on ne peut pas voir ce qui se passe à côté. Et c'est quand même important d'avoir une vision globale en permanence pour capter un détail qui, lui, va avoir un impact sur la gestion du secours. Et ce que je pense, c'est que humainement, on ne peut pas mener, on ne peut pas être dans les deux postures. Ça laisse réfléchir sur le concept qu'on doit donner sur le dimensionnement et sur la stratégie. Pourquoi pas dire, y a un mec sur un secours, lui il pense à rien, il pense simplement à regarder et on lui demande rien d'autre que ça. Il est juste là pour lever le doigt s'il voit un truc de particulier. Après, j'attire votre attention sur quelque chose qui me turlupine. C'est que nous, on est médecins urgentistes, 99 fois sur 100, on fait de la médecine d'urgence où on va chercher des gens, on va faire l'impossible. Quelquefois, ça peut paraître futile, en médecine de catastrophe, il ne faut pas partir, prendre des décisions sur des hypothèses improbables. J'entends par là, je fais allusion à la réanimation des arrêts cardiaques. La preuve en est, c'est qu'on a quand même ce réflexe qui a été engagé, eh ben, il a failli être délétère pour notre patient qui a été négligé. Un des dogmes de la médecine de catastrophe, c'est de s'occuper d'abord des vivants. Et nous, on se met la barre assez haut à avoir des cas de conscience sur les gens qui sont probablement morts. On dit toujours que la médecine de catastrophe, le but de la médecine de catastrophe, c'est de sauver le plus de vies. Ce faisant, on se met un peu la pression. Et moi, ce qui m'a transformé, c'est de changer d'optique. Pour moi, la médecine de catastrophe, c'est d'abord de ne pas tomber dans avoir des décès évitables. Et cette posture, à mon avis, elle favorise le fait de mettre en priorité des actions très simples qui ont beaucoup d'intérêt et qui peuvent être très, très performantes, comme par exemple savoir se servir de sa radio ou penser à prendre le registre des victimes, penser à faire des choses très simples, mais qui, au final, vont servir aux vivants plus qu'aux morts. Et du coup, aussi, sur je finirai là-dessus, la médecine de catastrophe, plus j'y pense, plus je pense que ce qui est très difficile, c'est de définir ce que c'est. Parce que, pourquoi ? Parce que si on passe à côté de la définition, si on ne reconnaît pas la médecine de catastrophe, qu'on est dans une situation MCI, et si on ne le reconnaît pas tout de suite, on a déjà un train de retard, ou voire deux trains de retard. Et ma dernière diapo, voilà. Moi, voilà ma propre définition. Hein. Elle n'engage que moi. On est en situation de médecine de catastrophe. On doit mettre en place les outils de médecine de catastrophe quand on a beaucoup de victimes, ou pas. Même une victime, ça me suffit. Quand on a ou pas beaucoup de ressources, beaucoup de moyens à coordonner. Quand on intervient sur une zone qui est très très vaste, dont on a du mal à faire avec simplement en balayant le regard, en écoutant distraitement ce qui se dit, dont on a du mal à évaluer la situation et qu'on est obligé de prendre d'appeler des gens, de demander des informations, de les recouper. Quand on doit prendre beaucoup de décisions en même temps et surtout dans un laps de temps très court. Quand il y en a au moins un de ces facteurs, je pense qu'on est en situation d'équivalent de médecine de catastrophe et les outils de médecine de catastrophe sont très utiles. Que vous ayez 100 personnes, 10 personnes ou même une seule. Voilà.